en podcast comme à la radio. Vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec Perrine Chuquet et avec toute l'équipe de l'heure du crime qui m'aide chaque jour à préparer et à présenter ces émissions sur RTL. Aujourd'hui, vous allez peut-être découvrir à travers cette émission spéciale une affaire que vous ne connaissez pas. Alors quelques mots tout de suite pour vous dire que Raphaël Maillon, que vous entendrez tout au long de cette émission, sera peut-être demain la 9e personne dans l'histoire judiciaire française à voir son procès révisé. Raphaël Maillon a été condamné en 1997 par la cour d'assises d'Épinal à 17 ans de réclusion pour le meurtre de son ancienne petite amie Valérie Bechtel. Malgré l'absence de preuves matérielles, l'absence de témoins directs, Raphaël Maillon a été condamné à la suite des accusations de son meilleur ami de l'époque, Yann Bello, condamné lui à 2 ans et demi pour avoir aidé à transporter le corps. Raphaël Maillon a toujours clamé son innocence. Il est revenu très vite sur ses premiers aveux. Plusieurs demandes en révision lui ont été refusées par la justice ces dernières années. Mais l'affaire a connu un rebondissement spectaculaire à l'été 2011 et pas 2012, comme j'ai dit par erreur tout à l'heure. Une autre jeune femme, à l'été 2011, Charlène Bello, a été assassinée, étranglée, comme Valérie Bechtel, avec une serviette après avoir subi des violences sexuelles. Elle était à l'époque en instance de divorce avec Yann Bello, qui, depuis, a avoué cet homicide. Et nous allons revenir ensemble sur cette affaire avec, bien sûr, Raphaël Maillon, qui a déposé une nouvelle demande en révision, puisque je vous disais, la décision sera annoncée demain. Présente également dans ce studio l'avocate de Raphaël Maillon, maître Sylvie Novakovic. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. On revient tout de suite à cette demande en révision, parce que j'imagine que 24 heures avant ce genre de décision, on est dans un état particulier.
De stress. Hein,
de quand on se bat depuis 14 ans, vous m'avez dit.
Oui, c'est un combat de 14 ans.
En micro. Et puis près de vous, j'ai demandé également à Delphine Velter, qui est journaliste,
bonjour
Delphine, de venir nous rejoindre parce que vous avez déjà travaillé en tant que journaliste de télévision sur cette affaire, mm-hmm. et très régulièrement, hein, depuis de nombreuses années, je crois.
Ça fait presque 2 ans.
Presque 2 ans depuis, en fait, le meurtre de La Rochelle. Exactement. Qui a relancé l'affaire. Exactement. Et vous souhaiteriez, évidemment, écrire la fin de l'histoire.
Évidemment, puisque je suis convaincue de son innocence depuis la... le premier jour où je l'ai rencontré, en fait.
Alors, tout de suite, on va prendre Raphaël Maillon au téléphone. Il pouvait pas être avec nous physiquement en direct ici, rue Bayard. Bonjour Raphaël Maillon.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté donc à 24 heures de cette décision qui est très importante pour vous dans une affaire qui a vraiment fait basculer votre vie. On va revenir tout à l'heure, si vous le voulez, sur le dossier, sur les zones d'ombre, sur les raisons qui font que vous avez toujours pensé que votre innocence finirait par être prouvée. Mais d'abord, une phrase que j'ai lue de vous dans une interview qui m'a frappé. Je préfère être innocent en prison, disiez-vous, que coupable en liberté. C'est le sens de votre combat ?
Oui, bah ça reste toujours ma raison première. J'ai jamais eu à supporter le poids de la culpabilité, même enfermé. Moi, j'ai seulement combattu l'erreur judiciaire. Et à l'intérieur comme à l'extérieur, j'ai jamais eu à supporter le poids d'une quelconque culpabilité, ce qui n'est pas le cas de Bello, mon accusateur.
Oui, on va en reparler bien sûr de cet aspect-là du dossier, mais on va rappeler donc vous êtes condamné en 1997, 17 ans, oui. Vous êtes en liberté conditionnelle en 2004. Hein.
Oui, en 2004. Oui.
Ça veut dire que pèse toujours cette liberté conditionnelle sur vous jusqu'à l'an prochain ?
Non. Aujourd'hui, je suis libre. Hein, j'ai plus de contraintes judiciaires.
Ouais. Vous avez refait votre vie ?
Oui, je suis éducateur sportif aujourd'hui. J'ai refait ma vie. Je suis inséré dans la vie normalement. Mmh. La condamnation qui bloque aussi ma vie personnelle et professionnelle.
C'est ça. Donc vous souhaitez ce combat pour vous, bien sûr, puisque vous dites moi je suis innocent, je l'ai toujours dit, mais aussi
pour
vos proches aussi.
Pour mon honneur. Mmh. Ouais. Oui, il faut que je sois réhabilité aussi pour ma famille, mes enfants, mes amis, mes proches, mais avant tout c'est pour moi. Je peux pas vivre avec une erreur judiciaire toute ma vie sur mes épaules. C'est difficile, difficilement acceptable.
Alors écoutez, on va vous retrouver tout au long de cette émission. Vous nous apporterez votre éclairage, vos précisions, votre témoignage. Un mot tout de suite avec Maître Sylvie Novakovic, donc qui est votre avocate. Vous n'étiez pas l'avocate de Raphaël au moment du procès de 1997.
Non, je n'étais pas son avocat. En fait, je suis son avocat depuis 1999. Lorsqu'il était incarcéré, j'ai tout fait déjà dans un premier temps pour le libérer de façon conditionnelle. Il a été libéré, il a obtenu un jugement de libération conditionnelle en 2003. Et ensuite, ça a été le combat. D'ailleurs, on a commencé déjà en 99 par une première demande de révision. Et puis après, le combat a continué parce qu'à chaque fois, je trouvais des éléments nouveaux, mais que la commission de révision n'estimait pas suffisamment nouveaux pour faire naître un doute sur la culpabilité de M. Maillan.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, on attend cette décision pour demain. Avec beaucoup d'espoir, je crois, du côté de Raphaël et de votre propre côté. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que cette commission décide qu'il y aura un nouveau procès? Ça n'est pas de reconnaître l'innocence, ou est-ce que c'est possible?
Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est un élément nouveau, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
D'accord.
Il s'avère que malheureusement, ce procès, à l'époque, avait été bâclé, que M. Maillan pensait, en allant à ce procès, qu'il serait manifestement acquitté et finalement à laisser vivre le procès tranquillement, puisqu'il se savait innocent. Oui. C'est une grave erreur, parce qu'en réalité, on sait très bien que quand on est innocent, il faut plus que jamais se battre.
D'accord.
Pour prouver son innocence.
D'accord.
Par ailleurs, on est dans un contexte très particulier, puisque peu de temps auparavant, on avait l'affaire Grégory. L'affaire qui avait piétiné également dans les Vosges, donc ça fait deux affaires qui piétinaient, c'était embêtant.
D'accord. Donc pour que la commission de révision décide, est-ce qu'elle décide un nouveau procès, à coup sûr, ou aussi est-ce qu'elle peut décider de l'acquittement ou du non-lieu, de l'innocence?
Alors, ce qu'on attend de la commission de révision, c'est qu'elle renvoie ce dossier devant la chambre criminelle, statuant comme cour de révision.
D'accord. Alors, on va revenir évidemment en détail sur tout cela, revenir dans quelques instants après une pause sur les faits de 1991 et l'enchaînement de situations qui ont conduit Raphaël Maillan à être condamné, comme on l'a dit, à 17 ans de prison. À tout de suite. Alors, il faut penser aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment et dont certains découvrent certainement cette histoire qui a fait basculer la vie de Raphaël Maillan, comme je le disais tout à l'heure, avec Delphine Velter et Maître Novakovic. On va peut-être rappeler tout de suite les faits, c'est-à-dire que s'est-il passé, la découverte du corps de cette jeune femme de 20 ans, le 12 août 1991, dans la forêt de la Souche, près de Thaon-les-Vosges, je crois, par un gendarme qui fait son jogging un petit peu après-midi, et il découvre ce corps.
Tout à fait. En fait, c'est assez affreux parce que le gendarme, en fait, faisait promener son chien, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il voit dans un fossé? Un corps nu qui gisait dans le fossé, qui était effectivement un cadavre, le cadavre de Valérie Bechtel. Bien sûr, tout de suite, le médecin légiste s'est rendu sur place et a constaté une mort récente.
D'accord. Donc, évidemment, on essaie d'identifier, Delphine Velter, le cadavre. Ça va être assez rapide, grâce à un détail corporel, je crois.
Elle a un tatouage, un scorpion, effectivement. Il faut savoir que le corps n'est pas très rigide, en fait, étonnamment. Donc, le médecin légiste va remonter la mort à quelques heures, en fait.
Dans la nuit qui a précédé la découverte.
Oui, au départ. Le lundi matin, c'est un lundi matin.
Oui.
Et il va conclure aux causes de la mort.
Elle a été étranglée.
Elle a été étranglée avec un torchon.
Oui.
Et elle a de 49 plaies sur le corps qui a priori viendraient d'un pic à viande.
Ce sont des sortes d'entailles qu'on trouve sur le corps de la
victime. Exactement, et elle a des nombreux coups au visage qui a certainement entraîné une hémorragie. Et elle est nue. Voilà, c'est un détail important, puisqu'on verra 20 ans plus tard que ce détail
prend un autre sens. Il y a également, au chapitre des constatations, pour être complet, des traces de pneus qui laissent supposer aux enquêteurs que le crime a eu lieu ailleurs et qu'on a transporté le corps. Voilà. Donc ça, ce sont les constatations. Alors, à partir de là, je vais peut-être demander à Raphaël Maillan de nous dire, parce que les gendarmes vont connaissant l'identité donc de Valérie Bechtel, évidemment, s'intéresser à tous ceux qu'elle connaît, à ses proches et à cette bande d'amis que vous composiez, je crois, à l'époque, elle avait été votre petite amie pendant un an, mais bien avant les faits, hein.
Oui, c'est ça, c'est bien avant les faits. Un an avant, j'étais en relation avec elle, en relation amoureuse. Les enquêteurs ont ratissé large. Ensuite, ils ont commencé à chercher autour des amis de la victime. Moi, comme j'étais au courant du vol du magnétoscope, j'en ai fait part à l'époque aux gendarmes.
Oui, alors ça, je vous interromps parce qu'il faut expliquer effectivement que votre meilleur ami de l'époque s'appelle Yann Bello, qu'il avait un projet de cambriolage dont il vous parle. Hein, vous assumez cette connerie de l'époque, quoi. Hein, vous dites, voilà, bon.
Oui. Donc j'étais au courant du vol, ils m'en parlent.
Mais le vol, attendez, Yann Bello vous dit, on va aller piquer un magnétoscope, ça vaut beaucoup d'argent à l'époque.
Non, enfin, il me propose pas d'y aller. Hein.
Oui, mais il dit
que lui va y aller.
Voilà, au domicile de Valérie, dont il a été aussi le petit copain.
Exactement, oui. Bon, ce qu'il a caché pendant longtemps. Aujourd'hui, ça ressort dans les PV qu'il était aussi le petit ami, qu'il a été aussi le petit ami de Valérie. À l'époque, ça n'avait pas été soulevé.
Et alors, Raphaël, vous dites que quand vous êtes interrogé, mais pas accusé, mais interrogé par les gendarmes, et c'est bien normal. Ouais. On essaye de comprendre ce qui a pu se passer. Vous parlez spontanément de ce projet de cambriolage.
Dans un premier temps, non, j'en parle pas parce que je fais pas la relation entre les deux. Pour moi, ça me paraissait ahurissant, quoi. Enfin, pour moi, il y avait pas de lien. C'est par la suite qu'on apprend le vol du magnétoscope et tout ce qui s'ensuit que je finis par faire le lien, dire mince. Ouais. Du coup, c'est peut-être lui, quoi. Il sait peut-être quelque chose, et voilà. Donc, je finis par en parler, et quand j'en parle, ben, Bello finit par m'accuser du crime.
C'est-à-dire que lui, il va donner une autre version. Il va dire, voilà, oui, on a fait ce cambriolage à deux. On a pénétré dans la maison de Valérie. Et puis, elle était à l'étage, elle s'est réveillée. Maître Novakovic, je veux préciser quelque chose à ce stade du récit.
Oui, à ce stade du récit, il faut savoir que Monsieur Bello a en fait changé 7 fois de version et n'a accusé Monsieur Maillan qu'au bout d'un mois.
D'accord.
Donc ça, c'est important. Quand il a appris que M. Maillan l'accusait.
Donc l'accusation n'est pas...
pas condamnée.
Et surtout, si je peux permettre, quand il a été mis en difficulté. Parce qu'il y avait des incohérences sur son alibi.
D'accord. Donc qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit, oui, j'ai fait ce cambriolage, mais j'ai rien vu.
Ah bah lui, il a rien. Il a même dit qu'il n'avait pas fait de cambriolage, qu'il était au courant de rien. Il a nié les faits. Et lorsqu'ils lui ont parlé de M. Maillan, qui le dénonçait, c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à faire des aveux, ses soi-disant aveux, en disant que c'était lui qui avait commis cambriolage, etc. avec lui, qu'il avait projeté cela. Et puis il y a eu 7 versions. Et puis il a fini par garder une version définitive au bout de 7 fois.
D'accord.
Et au départ, je l'accuse de rien. Hein. Je dis juste qu'il y avait le projet du vol magnétoscope, c'est tout. Hein.
Voilà. Oui, enfin, lui, il a considéré que vous l'accusiez, évidemment, puisque vous avez indiqué qu'il y avait un projet de vol magnétoscope.
D'accord. Et alors, Raphaël, encore un mot avant la pause. Vous êtes mis en garde à vue. Pour vous, c'est une surprise totale. Vous n'avouez pas en garde à vue, comme j'ai pu le laisser entendre tout à l'heure, je crois.
Oui, j'ai entendu. Vous avez dit, j'avais fait des aveux, j'ai jamais fait d'aveu. J'étais appelé comme témoin, donc je suis arrivé libre et quand je suis arrivé à la gendarmerie, on m'a passé les menottes et donc j'étais mis en examen. Enfin, j'étais en garde à vue et j'ai jamais avoué.
Et vous n'avez jamais avoué, puisque vous dites, non, j'ai jamais avoué, puisque je suis innocent, voilà. Donc, il fallait rappeler ce contexte. On va continuer à en parler dans un instant après la pause, parce que c'est cette version, en tout cas, qui a été retenue par l'accusation, la version de Yann Bello, qui dit, voilà, oui, on a fait ce cambriolage à deux, et puis la jeune fille s'est réveillée, et puis j'ai entendu du bruit dans la chambre, et puis il finira par dire, j'ai aidé à transporter le corps, et c'est pour cette raison-là qu'il a été condamné pour sa part à 2 ans et demi de prison. On se retrouve retrouve dans un instant. Et nous revenons à cette émission consacrée à l'affaire Raphaël Maillan et surtout à cette décision de la commission de révision des condamnations pénales qui sera, dont la décision sera rendue publique demain, 4 juillet. Il faut dire, on va retrouver Raphaël Maillan dans un instant bien sûr, maître Sylvie Novakovic qui est son avocate également et qui a déposé ses demandes successives en révision, on va les retrouver dans un instant, mais d'abord avec Delphine Velter, peut-être passer à l'événement qui fait que un rebondissement s'est déroulé à La Rochelle et que cela va peut-être changer le cours des choses.
Alors, oui, il faut savoir que Yann Bello a refait sa vie du côté de La Rochelle. Il rencontre donc une jeune fille qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelle Charlène. Il se marie rapidement, elle tombe enceinte. Et ça se passe très mal.
Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Lui, il est cuisinier.
Elle est serveuse. Exactement. Lui, donc, oui, il travaille un petit peu, mais pas beaucoup, on va dire. Il vit un peu à ses crochets. D'ailleurs, il va loger chez les parents de Charlène. Quand elle tombe enceinte, il bascule. Il se met à sortir, à prendre de la drogue, à la tromper. Elle le vit évidemment très très mal. La relation va se détériorer de plus en plus et elle va le quitter.
Et instruire une demande de divorce.
Exactement, et ça il ne le supporte pas. Donc là s'instaure un chantage au quotidien. D'abord il garde l'enfant. Il lui interdit de voir l'enfant. Si elle veut voir l'enfant, il faut qu'elle donne de l'argent.
Donc, manaille les visites de la mère à son enfant.
Elle vit un cauchemar. Elle a pas son enfant pour Noël alors qu'il a 2 ans. Et puis finalement, elle demande évidemment à la justice de l'aider. Et le juge va décider 2 mois avant le drame, le second drame, de lui donner la garde à la maman, donc à Charlène. Et ça, pour lui, c'est insupportable. Il perd totalement le contrôle, évidemment. C'est insupportable pour lui.
Alors, elle ne veut plus le voir, bien sûr. Elle dira même à ses proches que...
Elle en a peur.
Et puis, il va trouver une prétexte.
Exactement. Il
l'attirer chez lui, en fait.
Et en fait, il la harcèle de SMS. Pendant 2 semaines, il lui envoie des SMS pour l'attirer chez lui.
Alors, le prétexte, c'est
signer les papiers du divorce. Il lui fait croire qu'il va signer quelque chose. Et elle en rêve, évidemment. Elle veut que ça se termine. Et voilà, le 18 juillet, elle y va seule. Après son travail, elle se rend en bus dans l'appartement de La Rochelle. Et là, c'est le drame.
C'est le drame, elle n'en sort pas vivante.
Exactement.
On découvre alors lui, il va la tuer.
Ouais.
Il la voit plus tard. Il n'y a pas de zone d'ombre cette affaire-là. Mais il fait ses valises, il s'en va avec sa carte bleue. Il va aller dans un hôtel de La Rochelle, inviter des copains à dîner le soir.
Il va dîner avec un ami. Oui. Alors en fait, bon, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il la tue en l'étranglant avec une serviette. Elle présente d'énormes coups au visage aussi. Alors là, petite nuance, elle est retrouvée avec un petit peu de vêtements, sauf qu'elle a été violentée sexuellement.
D'accord.
Voilà.
Et alors les enquêteurs, évidemment, qui procèdent à son arrestation très vite.
Le soir même.
C'est l'enquête. Les proches, qu'est-ce qui s'est passé? Ils découvrent très très vite, en quelques heures, tout ce contexte. Et puis ensuite, ils vont s'apercevoir, les enquêteurs, que en 1991, Yann Bello a été mêlé à une autre affaire.
Qui n'est pas inconnu de la justice. Et là, quand on voit les 2 scènes de crime, c'est extrêmement troublant. Elle est morte dans les mêmes conditions que Valérie Bechtel. Donc là, ça interpelle quand même. On se dit, à 20 ans d'intervalle, vraiment, 20 ans, pile poil, 20 ans.
Je vais demander, Raphaël Maillan est en ligne toujours. Vous apprenez ce qu'on vient de dire, comment? Par la presse?
Non, par Maître Novakovic qui m'a appelé. Moi, j'étais dans les Alpes. Mon premier ressentiment, c'était de l'écœurement. Même si aujourd'hui, j'allais dire, ça me sert à alimenter ma révision, j'étais dans un premier temps écœuré qu'il ait recommencé.
Pour vous, il a recommencé.
Il a 2 victimes à son actif, c'est... c'est pas normal.
Oui. Maître Novakovic, donc vous apprenez la chose.
Alors c'est très curieux en fait, ouais. Parce qu'en fait j'ai été contactée par la tante de la victime, la tante de Charlène Bello,
ouais.
Qui m'a appris l'assassinat de Charlène Bello.
Mais donc elle savait que ça pouvait être important pour vous de le savoir.
Pire que ça, en fait, non seulement elle savait que c'était important, mais elle m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle pensait à moi et à Monsieur Maillan parce qu'elle connaissait mon combat.
D'accord.
Et elle m'a informé de cet assassinat avant tout le monde, finalement, avant les journalistes. Et j'ai tout de suite appelé mon client pour lui dire. Et la réaction de mon client a été de dire ça y est, il a recommencé. Voilà ce que m'a dit Monsieur Maillan lorsque je lui ai appris.
Je viens de redire
cet assassinat.
Oui. D'accord. Et donc, alors on va là faire mettre quelques points de suspension, se retrouver dans un tout petit instant, revenir sur le dossier que vous avez présenté à la justice, cette fois pour cette nouvelle demande en révision, parce que il y a évidemment ce qu'on vient de dire, mais il y a peut-être également, ça peut être l'occasion aussi de revisiter certaines zones d'ombre du procès et des questions auxquelles on n'a pas répondu, et je pense notamment à la datation précise de l'heure de la mort de la première victime, Valérie Bechtel. On y revient dans un instant. À 24 heures de la décision de la commission de révision des condamnations pénales qui va statuer sur la nouvelle demande en révision présentée par Raphaël Maillan qui participe à cette émission tout au long de cette heure par téléphone et avec maître Sylvie Novakovic, bien sûr, ils attendent avec impatience et espoir cette décision qui permettra peut-être à Raphaël Maillan d'être, comme je disais au début de l'émission, la neuvième personne en France à obtenir la révision de son procès. Et nous revisitons donc l'affaire. On est revenu en 1991. Vous avez compris les raisons pour lesquelles, au procès de 1997, Raphaël Maillan a été condamné à 17 ans de prison sur les accusations, sur la foi principale, des accusations donc de Yann Bello, qui était son ami à l'époque, son meilleur ami à l'époque, et puis cet incroyable rebondissement à l'été 2011, presque le même scénario, une victime qui est aussi une jeune femme, et des détails macabres, mais il faut les rappeler, les deux victimes ont été étranglées, l'une avec un torchon, l'autre avec une serviette. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin, et de vous demander, Maître Novakovic, quelle est votre argumentation, le dossier que vous avez présenté à la justice pour obtenir cette révision, on va revenir sur un de ces points d'ombre, une question peut-être qui n'a pas été franchement tranchée au cours du procès de 1997 et qui pourtant était très important, parce que se jouait là la participation ou pas, dans l'esprit en tout cas de la cour et des jurés, de Raphaël Maillan au meurtre, avant de déplacer le corps dans cette forêt. Moi j'en ai entendu parler, et on l'a retrouvé dans les archives de la rédaction d'RTL, le 21 novembre 2005, de cette histoire d'heure, parce que ce 21 novembre, la commission de révision se penchait déjà sur le dossier de Raphaël Maillan, et de nouveaux éléments pouvaient déjà, c'est ce que vous pensiez, disculper Raphaël, et c'est ce qu'expliquait aux éditeurs d'RTL Jérôme Florin.
Tout repose sur un problème de date. Le jour de la découverte du corps, lundi 12 août 92, le médecin légiste procède à une analyse du dosage de potassium dans l'œil de la victime. La technique est approximative, mais très répandue à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui. Elle montre que Valérie a été tuée dans la nuit du samedi au dimanche. Et c'est là-dessus, et uniquement là-dessus, que se base l'enquête. Et au procès, Maillan est accablé par un ami qui affirme que le jeune homme était bien présent ce soir-là au domicile de la victime. Mais curieusement, toutes les autres analyses du médecin légiste sont ignorées par instruction. Elles sont pourtant capitales puisqu'elles démontrent que la mort a en fait eu lieu 24 heures plus tard, donc entre dimanche et lundi. Autrement dit, pour la défense, la justice a condamné Maillan pour un meurtre qui n'avait pas encore eu lieu. Elle s'est trompée et il faut donc revoir le procès. Mais les procès en révision sont très rares. Il n'y en a eu que 7 depuis 1945.
Voyons tout de suite, après ce que disait Jérôme Florin à l'époque, Maître Novakovic, ce qui se jouait là sur l'heure de la mort.
Alors parmi les éléments qui pesaient contre mon client, c'était effectivement la date de la mort. Parce qu'à l'époque du procès, on était persuadé que la mort était intervenue dans la nuit de samedi à dimanche. Or, M. Maillan n'avait pas d'alibi pour la nuit de samedi à dimanche.
Le corps a été découvert un lundi
matin. Le corps a été retrouvé lundi matin,
l'heure de la...
Voilà, en fait vous avez eu deux rapports de médecin légiste. Un premier rapport qui disait... que la mort était récente,
oui.
Et un deuxième qui disait que la mort était de la nuit de samedi à dimanche.
D'accord.
Mais curieusement, pendant le procès, je n'y étais pas, mais pendant le procès, eh bien, on a débattu uniquement, et ça je me suis basé sur l'arrêt de la chambre d'accusation, sur la datation de la mort du samedi au dimanche.
D'accord, on a complètement oublié qu'un autre rapport datait cette mort de la
absolument.
La nuit des, du matin avant le matin où on a découvert le
absolument.
Corps.
Absolument. Et donc en 2005, je me suis saisi de ce problème puisque j'ai contacté le médecin légiste qui m'a attesté, Monsieur Mangin de l'époque, qui m'a attesté que si on lui avait posé la question le jour du procès, il aurait réfuté avec force cette analyse du potassium dans l'humeur vitrée, parce qu'il est complètement désuet et plus utilisé du tout, parce que on s'aperçoit, surtout quand la victime a eu un hématome, ça ne fonctionne pas.
D'accord.
Donc il aurait dit avec force que le décès était intervenu dans la matinée du lundi, ou peut-être dans la nuit de dimanche à lundi.
D'accord.
Or, à ce moment-là, il avait un alibi.
C'est ça que je voulais vous demander. Voilà.
Tout à fait.
Si c'est dans la nuit du samedi au dimanche, Raphaël Maillan n'a pas d'alibi. Si c'est dans la nuit du dimanche au lundi, il a un alibi.
Complètement.
Oui. Alors, Raphaël Maillan, vous êtes en ligne toujours.
Oui.
Bon, je pense que ça doit pas être facile pour vous, mais enfin, en même temps, il faut tout dire pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous, ça confirmait votre déclaration d'innocence. Pourquoi on n'en a pas parlé au procès? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, vous avez compris à l'époque, pendant votre procès, que c'était quelque chose de très important?
Non, pour moi, pendant le procès, c'était technique. Je le comprenais même pas.
D'accord.
Je veux dire, le procès, je le comprenais même pas en lui-même.
D'accord.
Personne n'est prêt à supporter une cour d'assises. Surtout à mon âge, j'étais très jeune et en plus très naïf.
Oui.
Moi, je faisais confiance aux gens qui étaient là. Je pensais à mes avocats, aux magistrats qui étaient présents. Je pensais que chercher la vérité.
Ouais. Vous vous êtes dit, puisque je suis innocent, c'est pas possible que la vérité n'éclate pas, quoi.
Exactement. J'allais dire la position que j'avais, que j'ai d'innocent, c'est difficile de se positionner. Je peux rien dire d'autre que j'ai rien fait. C'est ma position est très complexe du coup. Oui.
Ce qui fait que
elle est simple mais très complexe parce que je sais pas me positionner. Je raconte ce que j'ai fait samedi soir et point, ça s'arrête là.
Oui. Et en fait, quand vous avez appris votre condamnation, le monde s'est écroulé, quoi. Vous avez été.
Il y a un monde qui s'écroule, un autre qui arrive très vite, parce que derrière ça, c'est la vie en détention, c'est 10 ans de galère, 10 ans de difficultés pour moi, pour ma famille, même encore après, ça reste présent. C'est très difficile à vivre.
Mais je faisais allusion tout à l'heure, j'ai lu dans un dossier évidemment de à la fois de presse et un dossier pour préparer cette émission, et j'ai vu certaines de vos déclarations, là, je faisais allusion au début de l'émission, vous avez dit également la prison m'a mûri, je ne suis plus le même,
oui, elle m'a changé,
et vous sentez plus armé aujourd'hui pour défendre votre innocence qu'à l'époque.
Déjà j'allais dire, ma meilleure arme c'est Maître Novakovic. Et en même temps, j'ai grandi. J'ai une mentalité d'adulte aujourd'hui. J'étais qu'un gamin à l'époque. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Même si je voyais, j'étais spectateur de ma condamnation. Aujourd'hui, je peux un peu plus être acteur.
Alors, on va se retrouver pour la dernière séquence de l'émission dans un petit instant, après une pause. Il va falloir qu'on dise aussi que il y a pas que des zones d'ombre, il y a des pièces qui manquent, des pièces à conviction qui manquent, et qui auraient pu, là aussi, avec les progrès de la police technique et scientifique, peut-être apporter une réponse aux questions qu'on se pose. On évoque ce point-là particulier dans un tout petit instant. Et la dernière partie de l'émission consacrée au dossier présenté par Raphaël Maillan et son avocate Maître Sylvie Novakovic, décision, on l'a dit, demain. La suite avec Delphine Velter dans un tout petit instant, qui est la journaliste qui a déjà travaillé sur l'affaire, surtout depuis les deux dernières années, bien sûr, depuis l'été 2011 où il y a eu ce rebondissement. Mais d'abord encore une précision, s'il vous plaît, Maître Novakovic. Je disais, il y a une pièce à conviction qui a disparu, et c'est vraiment terrible, quoi.
Oui, alors c'est très malheureux. Ça fait aussi penser à l'affaire Dils, donc une pièce à conviction extrêmement importante, qui est le torchon qui a enserré le cou de la victime.
J'avais demandé
en 1999 la conservation des scellés auprès du parquet, et parallèlement j'avais fait une demande de libération conditionnelle de mon client. J'ai obtenu ce jugement de libération conditionnelle le 12 novembre 2003, et j'ai appris que le même jour, le 12 novembre 2003, les scellés avaient été détruits.
Il avait appris, on vous l'a écrit. C'est-à-dire que
on l'a écrit.
Pas la date,
Alors, je l'ai appris parce que j'ai relancé X fois le parquet, j'ai pas de réponse. Et je l'ai finalement su grâce à la commission de révision qui avait interrogé le parquet. On lui a répondu que tout avait été détruit le 12 novembre 2003. Voilà. Donc, c'est quand même scandaleux. Je suis ulcérée, scandalisée, parce qu'aujourd'hui, on se poserait même plus la question, car pour moi, mon client est évidemment innocent. Et il aurait été définitivement disculpé. Son procès aurait été révisé d'office.
En tout cas, on aurait pu faire une recherche ADN sans présumer de ce qu'on aurait trouvé, mais on aurait eu la possibilité. Avec les progrès de la police technique et scientifique. Delphine Velter, vous connaissez cette affaire par cœur, puisque vous avez travaillé déjà pour un premier reportage, vous préparez un documentaire de télévision. Bon, votre analyse personnelle. On demande rarement aux journalistes leur avis personnel, mais je le fais là.
Moi, je n'ai aucun doute sur l'innocence de Raphaël Maillan. Au vu du dossier. Ce qui est troublant, c'est que, mis à part l'heure de la mort, il y a rien. Si elle était morte, effectivement, dans la nuit de dimanche à lundi, aujourd'hui, on n'aurait pas de coupable. Et la justice serait bien embêtée. Donc là, ça arrangeait tout le monde, finalement, que l'heure de la mort...
On n'aurait pas de coupable, mais Yann Bello avait-il un alibi pour cette nuit-là?
Il était chez sa mère, donc c'est sa mère. Mais on n'aurait pas pu, trancher en fait. Hein. Et ce qui a été le cas d'ailleurs pendant cette année, puisque pendant 7 ans, on ne sait pas qui des deux pourrait être le coupable. Il y a eu un procureur qui a été dessaisi au bout de 6 mois dans cette affaire, au tout début. Il n'était pas du tout convaincu de la culpabilité de Raphaël Maillan. Bien au contraire, il était convaincu de la culpabilité de Yann Bello. Oui, il a été dessaisi. Bizarrement, au bout de 6 mois. Donc, il n'y a pas d'éléments matériels. Et on en a encore moins aujourd'hui, puisque tout a été détruit le jour de la sortie de prison de Raphaël Maillan.
Alors, dans le dossier, on peut le dire maintenant, peut-être, Maître Nokovitch, le dossier que vous avez présenté à la commission de révision, il y a d'autres éléments?
Oui, parce que non seulement il y a ce fameux élément nouveau qui est très important, puisque c'est l'assassinat de Charlène Bello avec le mode opératoire, parce que c'est pas l'assassinat en lui-même, c'est aussi le mode opératoire et la façon dont on a trouvé le cadavre. La victime a été tuméfiée, son corps a été tuméfié, etc. Tout à fait. Mais également, il y avait ce fameux témoin, ce soi-disant témoin, Monsieur Lopez,
Monsieur Lopez, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est un détenu.
C'est un co-détenu, en fait, co-détenu, de l'époque, de Monsieur Maillan. Mais après, j'ai pu prouver que c'est également Monsieur Bello. Parce qu'on avait dit qu'ils n'avaient pas pu se rencontrer, mais si, je l'ai prouvé également.
Et ce co-détenu va dire à la justice, il m'a avoué qu'il avait fait le coup.
Voilà, il aurait fait des aveux. Monsieur Maillan lui aurait fait des aveux, comme quoi, effectivement, il aurait assassiné.
Et ça a pu peser.
Valérie Bechtel. Alors, ça a pesé. Le témoignage de Monsieur Lopez a pesé, alors même qu'on savait très bien que c'était un affabulateur. Mais malgré tout, c'est un élément à charge qui a été contre mon client, effectivement.
D'accord. Et c'est donc dans le dossier que vous présentez, sur lequel qui va emporter une décision demain.
Oui, mais c'est pas ça l'élément nouveau. L'élément nouveau, c'est que pour considérer que c'est un affabulateur, certes, mais quelqu'un de crédible, on s'est appuyé à l'époque sur une instruction à Toulon, et un juge d'instruction avait effectivement s'était servi du témoignage de Monsieur Lopez et avait dans une autre affaire, et cela avait soi-disant permis d'appuyer effectivement une accusation contre quelqu'un. Or, il s'avère que, et ça n'a jamais été donné à la connaissance de la cour d'assises ni même de la chambre d'accusation, c'est qu'en réalité, finalement, la personne qui avait été accusée par Monsieur Lopez a bénéficié d'un non-lieu. Donc c'est un élément nouveau fondamental qui s'ajoute effectivement à l'assassinat.
Alors, dans un tout petit instant, on va donner le mot de la fin à Raphaël Maillan. D'abord, je voudrais qu'on entende un bref extrait, Delphine Velter, du document que vous aviez réalisé pour M6 avec les productions Tony Committee. Hein, c'est un reportage de 14 minutes sur l'affaire de La Rochelle, mais vous faisiez le lien, bien sûr, avec l'affaire Maillan. Et on va entendre là... l'avocat de Yann Bello
de l'époque,
au procès donc de 1997, maître Yannick Languille, qui lui se disait devant votre caméra convaincu que le meurtre de Charlène à La Rochelle n'avait rien à voir avec celui de Valérie Bechtel.
C'était le hasard.
Alors, on lui laisse la parole et c'est normal de le faire.
Il y a le dossier de Valérie Bechtel et puis il y a le dossier de Charlène Bello. Et je pense que ce sont deux dossiers totalement différents. Entre un véritable drame conjugal où Yann Bello se voyait arracher son fils et puis ce drame sordide né au départ d'un vol d'un pauvre magnétoscope, je ne ferai pas le parallèle du tout. Hein.
Nous avons aussi contacté avec Perrine Suquet ce matin maître Lee Takedmit, qui est l'actuel avocat de Yann Bello, mais maître Takedmit du barreau de Poitiers est en voyage à l'étranger, ne pouvait pas participer à cette émission. Raphaël Maillan, il nous reste une minute avant de conclure. Pour vous, c'est pas une conclusion, c'est demain la conclusion, je crois. Ouais. Dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que vous savez, même si Bello avouait aujourd'hui, il y a prescription. Alors, c'est pas ça qui vous intéresse, c'est pas ça qui vous importe.
Oui, donc mon état actuel, j'ai peur pour demain. Je suis plein d'espoir, mais j'ai peur pour demain. Un refus, ça serait une nouvelle condamnation pour moi. On condamnerait une deuxième fois. C'est déjà incompréhensible la première fois, là, ça le devient encore plus. Mmh. Mais je reste. Reste positif. Je pense que demain, ça va bien se passer.
Vous êtes confiant. Vous avez dû tourner, retourner. Confiant.
J'ai peur, hein, bien sûr. J'ai toujours peur. J'ai toujours cette crainte. Mais je reste très confiant.
Oui. Et vous attendez donc qu'on reconnaisse votre innocence et que, à la fois pour vous, bien sûr, on l'a compris, et pour vos proches, et pour tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, parce que c'est ce qui pèse hein, sur toutes ces affaires-là. Je vous remercie beaucoup. Hein. Merci,
merci à vous.
D'avoir participé à cette émission. Merci, maître Novakovic.
Merci beaucoup.
C'est chez vous, à RTL, vous savez. Merci, Delphine Velter.
Merci à vous.
Et puis, on va attendre le documentaire.
Et
j'espère
que
vous pourrez trouver un diffuseur pour... parce que vous, évidemment, vous serez demain aussi.
Ah oui,
au moment
évidemment, de
la décision.
J'attends cela avec impatience.
Merci à tous. L'émission est terminée. Vous pouvez toujours la réécouter, vous le savez, ou la podcaster sur rtl.fr.